Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus. Aujourd'hui, nous sommes trois pour présenter l'émission comme d'habitude, mais pas comme d'habitude non plus. Donc moi, c'est Dominique, bonjour à tous, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et un remplaçant de luxe pour François, on a un super sub, comme on dit en football, Marcel.
Non, je ne suis pas là.
Oh, merci beaucoup à toi d'assurer le remplacement de François qui veille un peu sur sa petite famille.
Ah bah oui, bah il doit écouter en même temps.
Bon, j'espère bien.
Il peut même appeler pour participer à l'émission.
Je ne lui donne pas de mauvaises idées.
Il écoute, on va avoir un rapport après, t'inquiète.
Détaillé.
Ouais. Et aujourd'hui, on reçoit deux invités.
Mais tu dis pas que c'est pas vrai. Vous avez des invités.
Manu et Jérémy qui viennent représenter...
Bonjour.
TGCM, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres mystérieuses? On va le découvrir, mais d'abord, un petit extrait musical pour introduire un festival qui va se dérouler bientôt. Rassurez les enfants, les parents. Ce n'était pas le générique du 20h de TF1, donc vous pourrez rester à l'écoute de Radio Campus. Donc c'est pour annoncer un festival qui va se dérouler du 18 au 20 septembre à Paris, au cinéma Le Club de l'Étoile. Je vais vous faire le pitch. Depuis le Jaws de Spielberg, le monstre de cinéma s'est décliné sous toutes ses formes. Des séries B 70 en passant par le monde d'eau, le genre repousse sans cesse ses propres limites jusqu'aux années 2000 avec l'apparition de la sharksploitation moderne et ses requins en images de synthèse hilarants. En parallèle avec des films comme Open Waters, The Reef, The Shallow ou 47 Meters Down, le shark thriller se renouvelle et emprunte un chemin alternatif. Les productions plus sérieuses fleurissent et nous promettent aujourd'hui plus de frissons et de divertissements. Le requin se devait d'avoir son propre festival de cinéma. Le Paris Shark Fest s'investit d'une mission, sensibiliser le public aux requins et à la cause écologique, mais aussi l'inviter à assumer et embrasser ses peurs profondes. Donc au programme de ce festival, il y a des documentaires, mais aussi des films. Ils vont bien sûr passer les classiques, mais aussi quelques films de blaxploitation. Toutes les informations, les séances et la billetterie, c'est sur parisharkfest.com du 18 au 20 septembre. Ça nous promet. Et ça va nous donner quelques musiques qu'on passera dans l'émission si on a le temps. Mais passons aux invités. TGCM, donc Manu et Jérémy, bienvenue à Radio Campus. Déjà, TGCM, qu'est-ce que ça veut dire? Même moi, je ne le sais pas, je me suis pas spoilé.
Bah, merci de nous recevoir. TGCM, c'est un super vieil acronyme. Ça va parler aux rôlistes qui nous écoutent. C'est en gros l'acronyme qu'on utilisait, que le maître de jeu utilisait quand il ne savait pas répondre à une question qui était un peu embarrassante pour lui ou qu'il n'avait pas prévu dans son scénario. Tout bêtement, le jeu de rôle, c'est ça. Hein, c'est un maître de jeu qui décrit ce qui se passe et l'endroit où se trouve le personnage qu'incarnent les joueurs.
Et il se trouve que je prends l'exemple du requin. Vous êtes dans une piscine et il y a un requin. Et là, les joueurs disent, et comment le requin il a fait pour venir dans la piscine? Et là, tu lui réponds.
Le MJ lui dit, TGCM.
Voilà.
TGCM, ça veut dire ta gueule, c'est magique.
Exactement.
Alors, pour la petite histoire, je dis pas ça à mon banquier, hein, parce que ta gueule, passer. C'est magique chez le banquier, ça passe pas très bien. C'est contre, Table Games, Customs and Miniatures. Non, vachement plus sérieux.
Par contre, t'avais les parents qui avaient envie de leur dire aussi à leurs enfants sur certaines questions, donc. Je pense que tout le monde le comprend très bien.
Je pense que c'est d'actualité. Ouais. Tous ceux qui sont quadra ou pas loin doivent comprendre.
Eh ben, entrant dans le vif du sujet, TGCM, depuis combien de temps que ça existe? Et puis, comment ça a été créé?
Ça s'est créé un soir de barbecue un peu trop arrosé en Bologne. Je pourrais citer de marque, mince, il faut que j'en cite deux autres. Voilà, on avait bu un peu trop de rhum et surtout, on avait un gros passif de figurinistes derrière nous. Avec un associé qui n'est plus là maintenant, mais on s'est dit, moi j'avais déjà ouvert une boutique sur Paris 2004-2009, j'étais reparti mettre mon costard, ma cravate et dans la froideur des salles serveurs pour rembourser mes dettes, mais j'y allais à reculons. Donc en 2012, on s'est dit, allez hop, on tente le coup, on profite d'un intercontrat et puis on essaye de créer sa propre marque, là pour le coup, pas de vendre les produits des autres éditeurs. Via une boutique comme je l'avais fait, mais créer sa propre marque et essayer de. Au départ, on avait très peu d'expérience en sculpture, etc. Donc au départ, on a fait des gammes alternatives, des petites figurines qui n'existaient pas dans d'autres gammes, pour Blood Bowl par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Games Workshop. Blood Bowl, c'est un jeu de figurines fantastique où on va jouer au football en passant son temps à s'éclater la tronche plutôt qu'à gérer le ballon.
On vise pas forcément le ballon.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et il nous manquait des pom-pom girls pour les orques, il nous manquait des cuistots pour les halflings, etc. Donc on les a sculptés, on les a proposés, et TGCM a démarré comme ça. Le nom, c'était une évidence. La réussite du projet, pas du tout, quoi. Et on s'est dit, on démarre avec ce qu'on a dans les poches, et tant que ça grossit, on continue.
Et le but, c'était d'en vivre, ou c'était vraiment parce que c'était plus facile de créer, parce que vous ne trouviez pas ce que vous trouviez ailleurs, ce que vous cherchiez ailleurs?
En fait, il y avait un réel ras-le-bol de... Des métiers qu'on avait par obligation, en fait. Et à force d'y aller à reculons, il y a un jour où on s'est dit, on franchit le pas, on profite parce que là, voilà, justement, on est entre deux missions, on n'a pas grand-chose à faire. On peut tenter le coup. Et on a en gros 6 mois pour que ça marche, qu'on sente qu'il y a de l'engouement. Si jamais ça n'a pas fonctionné dans les 6 mois, on remet la cravate et puis on retourne en salle serveur. Et puis, il se trouve que ça a plu plus ou moins, que nos figues... On trouvait preneur, pas beaucoup au départ, mais ça a montré suffisamment d'intérêt pour qu'on se dise, essayons de faire mieux. Et puis très vite, en fait, 6-8 mois après qu'on ait commencé, il y avait tout un tas de gens, on a fait nos premiers salons, et il y avait tout un tas de gens, je me rappelle, c'était à Ransart, un salon qui se passe en Belgique, en février, qui nous disaient, mais il faut absolument que vous fassiez un jeu avec vos figurines, etc. C'est super important, ça marchera beaucoup mieux. On aime bien parce que vous avez... on n'est pas du tout, on n'est pas encore de très bons sculpteurs. En tout cas, moi, personnellement, je ne me considère pas comme un bon sculpteur, mais je pense qu'on a une patte et on amène quelque chose parce qu'on a pris le parti pris de faire des choses assez chibi, assez bande dessinée dans l'esprit. Et du coup, il y avait des gens qui aimaient bien ce style-là et qui nous disaient « faites un jeu, ce sera vachement plus vendeur et ça marchera mieux ». Donc on est reparti avec cette idée-là chez nous et puis j'ai commencé à faire les ébauches d'un jeu de pirates parce que c'est un univers qui n'est pas trop exploité.
Les figurines, c'était déjà des figurines à base d'animaux, comme on peut voir, ou alors?
En fait, on a vraiment démarré avec de la figurine alternative, donc de l'orque, de l'halfling, du nain, classique, etc., pour servir des manques dans d'autres gammes. À partir du moment où on s'est dit on va faire notre propre jeu, pour moi c'était une évidence que ça devait être quelque chose qui ne se faisait pas. On était trop modestes et avec des compétences trop lacunaires pour commencer à essayer d'aller taper sur les plates-bandes des grosses majors comme Games Workshop ou ceux qui tiennent le haut du pavé dans la figurine, quoi, et être tout de suite comparé à eux. Si on avait fait des nains, des orques, des elfes, etc., on nous aurait dit, t'es gentil, mais tu copies ce qui existe déjà et en plus tu le fais pas bien. Donc pourquoi tu fais ça, quoi? Et on se serait cassé le nez et on aurait foncé dans le mur. Donc les anthropomorphes, la piraterie, c'était deux choix que je trouvais fondamentaux en fait pour qu'on puisse se faire une place et avoir une raison d'être dans le monde de la figurine. La figurine, ça fait très longtemps que j'en fais et c'était à mon sens En tout cas, pas, j'en connais pas plus que ça. Il y a quelques Run and Bones, etc. Il y a eu quelques jeux, hein, Freebooter, etc., qui ont été déclinés là-dedans, et en anthropomorphe aussi, mais c'était les deux vecteurs les moins exploités. Et donc, ceux où on avait le moins de chances d'être comparés. Ce qui fait qu'en s'engouffrant là-dedans, on allait proposer quelque chose de nouveau. Alors, c'est ambivalent. Enfin, c'était assez casse-pipe parce qu'on pouvait très bien se dire, si c'est pas exploité, si les autres éditeurs se servent pas d'anthropomorphe ou de la piraterie, c'est peut-être parce que c'est casse-gueule et que ça n'intéresse personne. On a fait ce pari-là en se disant, ben voilà, on va tenter le coup avec quelque chose où on sera pas comparable à d'autres, ou très peu, et puis en essayant d'apporter notre patte, en apportant quelque chose. Donc, Briscars, le premier jeu, est né comme ça, 6-8 mois après que TGCM soit créé, quoi.
Je veux dire que le pari est réussi parce que moi, ça fait, oui, depuis que je fais des festivals, ça fait longtemps qu'on vous voit. Et puis, effectivement, quand on approche même à quelques mètres d'un stand TGCM, Briscars et Carnage, on le repère tout de suite parce que les figurines sont tout simplement énormes. Je vais pas dire que je conteste, mais énormes. C'est du 54 mm.
C'est du 54, ouais, à la base. Après, on a sorti des grosses figurines, etc. Et ça a grossi. Mais bon, comme dans un jeu de 32 ou 28, il y a des petits nains et des grands géants. Là, c'est un peu le même cas, mais l'échelle est, on va dire, en moyenne deux fois plus grande que ce qu'on a l'habitude de voir en figurines, quoi.
C'est-à-dire, si les figurines, oui, c'est ça, qui font 54 mm, c'est énorme, et c'est des, des animaux en costume de pirate, c'est le premier que j'ai vu.
C'est ça.
Il y avait tout, il y avait des chiens, il y avait même des requins, pour rester sur le sujet dont on parlait tout à l'heure. Qui avaient une pose, une tenue et des couleurs, même si quand on achète les figurines, elles ne sont pas peintes, il faut le préciser aux gens. Mais oui, n'importe qui nous écoute et qui passe devant un stand Briscard qui va sur leur site web, on rappellera l'adresse après, tout de suite, ça pète et on a envie d'acheter. Quoi. Juste une question, vous connaissez la proportion de gens qui passent devant le stand, qui achètent une figurine, qui n'est pas forcément pour jouer. Il y a des gens qui achètent pour jouer, il y a des gens qui achètent pour le plaisir d'avoir la figurine, même comme ça, et des gens qui achètent pour peindre.
Je dirais même juste un truc avant, c'est que en gros, la situation là fait qu'on souffre énormément du manque de salons qui existent. Mais jusqu'à au mois de mars, période où on a commencé à être confiné, donc où il y a eu toutes ces annulations de salons, on faisait quasiment 60% de notre chiffre d'affaires en salon. C'est-à-dire que, en fait, on est vraiment, avec Briscard et Carnage, des jeux et des gammes coup de cœur. C'est quand on les voit et quand on les croise sur le salon qu'on se dit « Oh putain, c'est trop classe, je la prends ». Et donc, on fait plus de la moitié de nos ventes en direct parce que les gens les ont vus dans les vitrines.
Et s'ils ont des enfants, alors là, c'est fini.
Cette proportion. ou des nanas, parce que t'imagines pas le nombre de joueurs, de figurinistes hardcore, etc., qui nous remercient en secret parce que leur copine, qui a jamais voulu entendre parler de Space Marine, d'Orc et de trucs monstrueux, parce qu'il y en a des bien pires, qui tombe sur nos pingouins, nos petits dodos, nos petits lapins, etc., ils font « Oh, elle est trop belle !» Et ils arrivent à faire une addition de fou et jouer aux figurines avec leurs copines.
On parle pas de petits lapins qui sont en train de manger une carotte tranquillement. Non, c'est des lapins avec des armes dans les mains qui sont prêts à se taper dessus.
Ouais, il a un fusil sniper, le lapin, c'est quand même un lapin, quoi. Et non, ça fait craquer les petites tortues, etc. Ça fait craquer beaucoup de filles. Et je crois, sans prétention, qu'on a l'une des plus grosses communautés féminines dans le monde de la figurine.
Ça, je pense que c'est un sujet qu'on pourra faire une émission sur ce sujet, finalement, les filles, les femmes, dans le jeu de société et le jeu de figurines. C'est vrai que est-ce que c'est parce que c'est des jeux de guerre, donc ça intéresse principalement les garçons, je ne sais pas, ça en changera sans doute, j'espère. Mais
t'as aussi les personnes féminines qui ont fait du jeu de rôle étant jeunes, qui sont aussi maintenant grandies et vieillies que leurs hommes, qui sont maintenant devenues mères et qui préfèrent peut-être passer ce type de jeu et de figurines passer avec leurs enfants, filles ou garçons, plutôt que justement de ressortir les ressasser orques, gobelins, etc. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de passer un mercredi à peindre des figurines avec son enfant, voyons. Mais la peinture à l'eau, plutôt que de faire un soleil sur un papier A4. Ah, hein.
Franchement, je pense que c'est un hobby qui est vraiment complet, quoi, parce que t'imagines pas le nombre de fois où on a fait des... t'as dû en discuter avec Greg de la Forge Ludique, justement, au Hammer Time, c'est ce qui s'est passé tout ce week-end, là. Il y a des parents qui arrivent et qui disent je peux vous le laisser une heure, genre je vais m'en débarrasser, tu vois, c'est s'il vous plaît, faites-moi plaisir, déchargez-moi pendant une heure. On dit oui, il n'y a pas de problème, on va lui montrer.
Et là, l'atelier peinture.
Il choisit sa petite fille, son pinceau, ses trois pots, machin, il la barbouille comme il veut, etc. On lui donne les conseils qu'on peut, quoi, bien sûr. sans rentrer dans des considérations, tu vas faire un lavis, puis ensuite tu vas passer au glacis, etc. On lui montre comment on va peindre et comment essayer d'être attentif. Celui qui était infernal d'après les parents et qui sautait partout, qui déchirait les murs et qui rongeait ses godasses, bah en fait, pendant une heure, il va pas bouger et il va être super fier de ce qu'il a fait au bout d'une heure. Les parents reviennent, je dis mais qu'est-ce que vous avez fait ? Enfin, vous lui avez donné un truc ? Est-ce qu'il est drogué ?
Ils veulent même pas savoir si tu l'as échangé entre-temps avec quelqu'un d'autre, ils veulent garder celui-là, quoi.
Mais non, en fait, on l'a juste mis sur un truc qui, en fait, est passionnant parce que tu t'immerges dans le petit bonhomme que t'as là, à l'âge où t'es minot et où tu commences à peindre 5, 6, 7, 8 ans. T'imagines déjà plein d'histoires pendant que tu es en train de lui mettre des couleurs. Et évidemment, bah, tu te concentres sur ce que tu es en train de faire. Et là, du coup, la mère de famille vient nous revoir. Et puis, vous en vendez alors, du coup, ces figurines, bien évidemment.
Et l'enfant est en train de concevoir ce qu'il est en train de réaliser. Il est en train d'imaginer quelque chose, mais il est fier parce qu'il est en train de le créer lui-même.
Mais
il prend conscience que c'est de lui que ça vient. Et en plus, si tu lui laisses la figurine à la fin de son atelier, il est tout fou.
Bah c'est ça, c'est merveilleux. Et du coup, pour une fois, il a envie de lâcher la tablette, le smartphone ou la console. Il fait quelque chose pendant une heure et c'est pas juste pour le poser sur une vitrine ou une étagère. C'est pour après constituer une petite équipe et aller faire une partie et s'amuser et donc faire vivre vraiment ses persos, quoi. En fait, c'est comme si on devait peindre nos Lego ou nos Playmobil. Et avec le plaisir de jouer avec ensuite, quoi.
On l'a fait. Et quelques années plus tard, quand on réouvre, on retrouve le carton avec des Lego et des Playmobil peints, on dit « Comment j'ai pu faire ça ?»
Pourquoi j'avais qu'un marqueur à l'époque ?
Dans mon souvenir, ce petit chevalier avec son bouclier, il était magnifique, il était brillant. Non, c'est juste un tas de boue avec de la peinture gouache dessus, c'est tout.
Ouais, ah oui, quand même. J'ai peint mes premières figurines assez tôt, en fait. J'avais 8 ans, je crois. Et effectivement, c'était avec de la peinture à maquette, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Je suis retombé dessus il y a 3-4 ans, c'est bizarre, on ne voit plus les yeux, le casque, les mains, enfin, on ne voit plus rien en fait.
Ah ben justement, avant de prolonger, de continuer l'histoire, on va écouter un petit morceau de musique, toujours dans le thème des requins. C'est un extrait de la bande originale du film Sharktopus, ça résume tout.
Excellent,
un grand titre.
Un morceau des Cheetah Wars.
Come on.
Star Wars, un extrait de la bande originale du film Shark Topus. Enfin, film. Oui, film, on peut parler, c'est un film. Donc, juste avant de la musique, tu nous expliquais, Manu, qu'à 8 ans, tu commençais déjà à peindre. Eh bien, vas-y, tu avais 8 ans et comment t'es en arrivé là maintenant? Un petit peu ton parcours de gamer.
Bah, je jouais un petit peu tout, comme tout le monde, Playmobil, Lego, etc. Puis un jour de vacances en Normandie, avec mes parents, je suis passé dans une petite boutique, dans une vieille rue de Saint-Malo. Je suis rentré dans une petite boutique qui avait l'air merveilleuse parce qu'il y avait des figurines partout, il y avait tout un tas de choses. J'ai acheté un petit blister avec mes économies que j'avais pour les vacances, un petit paquet de 3 moines de la marque Ralparta, ça parlera peut-être à des gens.
Ah oui, tout à fait.
Voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais,
je dois les avoir aussi quelque part dans un ouais, carton.
J'avais 2 moignons dont un qui tenait une lanterne pour éclairer. J'étais parti, j'avais mon donjon, et c'était merveilleux. Donc il fallait absolument que je revienne avec ça. Et du coup, j'ai découvert tout un univers en allant dans les librairies, etc. Parce qu'il n'y avait pas trop d'Internet. Et en tout cas, ça ne parlait pas de figurines sur Internet. Je suis rentré, j'ai commencé à faire librairie, à découvrir Cassius Belli, Lotus Noir, etc. Enfin, tout ce qui pouvait parler un petit peu de Dragon, ensuite Dragon Magazine, un peu plus tard quand même. Et donc j'ai commencé à me documenter là-dessus parce que je trouvais ça merveilleux en fait. On pouvait se raconter des histoires, on pouvait joyeusement se mettre sur la tronche avec ses copains en ayant une armée complète à gérer, quoi. Enfin, c'était faramineux. Il faut imaginer qu'à l'époque, on écrivait ses propres jeux en basique, hein, quand on voulait se mettre sur un PC. c'était pas des dinosaures, mais quand même, quoi. Il suffisait pas d'allumer la PS4, quoi.
Non.
Et donc, je suis parti avec ça. Et puis, avec mes copains, mes amis de l'époque, je leur ai tout de suite parlé, je leur ai montré tout ça. On s'y est mis. Pas longtemps après, HeroQuest est arrivé, Space Crusade. Ça, c'est des choses qui parlent à beaucoup de gens. Et donc, on s'est mis dans la figurine avec Talisman, avec l'œil noir, enfin, tout ce qui était disponible à notre portée en France. Parce que, comme d'habitude, on est un petit peu les parents pauvres du marché mondial, en tout cas en termes de hobby. Et du coup, on a découvert ça. Donc, on a sorti nos pinceaux. À l'époque, c'était super dur de trouver de la peinture acrylique. Donc, on achetait des petits pots de peinture à maquette, avec une épaisseur de peinture pas possible. Et puis, on peignait nos petits bonhommes. Et on se retrouvait dans mon grenier pour jouer, justement, à HeroQuest, s'inventer des donjons et à devenir les héros d'une après-midi, quoi. Et ça m'a poursuivi pendant super longtemps. J'ai continué à collectionner. J'ai démarré forcément avec du Games Workshop parce qu'on passe tous par là. Du Blood Bowl, du Mordheim, du 40K, du Warhammer Battle. Puis après, en fait, il y a une offre qui s'est un peu diversifiée. En France, ça a commencé à arriver. On a commencé à avoir des jeux espagnols, des jeux américains. On a commencé à avoir des petites structures qui se montaient en France pour faire de la figurine française, en Allemagne aussi. Je ne vais pas citer toutes les marques, mais bon, voilà, ça commençait à se démocratiser. Donc, on touchait un petit peu à tout, on essayait un petit peu tout dès que c'était disponible. Et puis la vraie vie m'a rattrapé. Il était temps d'aller gagner des ronds par moi-même. Donc je me suis formé, j'ai fait tout un tas de petits boulots. Aujourd'hui, en tant que président de TGCM, c'est mon 35e boulot. Donc j'ai essayé pas mal de trucs avant. De petit boulot en petit boulot, j'ai un ami d'enfance qui un jour est arrivé en me disant « Tu devrais faire de l'informatique, ça rapporte à mort et tout le monde en a besoin. » On était un petit peu à la fin des années 90, début 2000. Il me disait « Tout le monde a besoin d'informaticien, tu fais une formation de 6 mois, tu vas gagner ta vie. » Je dis « Ok, je sais pas trop quoi faire en ce moment. Allons-y, c'est parti. Je passe mes petits diplômes chez Microsoft et puis me revla administrateur réseau. Je fais ça pendant 3 ans et ça m'éclate, mais... J'ai plus de temps à consacrer aux figurines, j'ai plus de temps pour justement vivre le hobby comme j'aimais le faire avant. Et donc, je commence secrètement pendant mes missions. C'est pas bien, faut pas dire. Je pense que la plupart des prestataires font vraiment leurs heures et travaillent vraiment en informatique. Mais moi, j'avais du temps. Je trouve que cas exceptionnel, j'avais du temps. C'est ça. Peut-être je travaillais vite. Voilà, ça doit être ça. Et donc, j'ai commencé à préparer un projet. Je me disais au départ que la seule chose qui était accessible pour moi, c'était ouvrir une boutique de jeux. Parce que voilà, j'avais jamais créé de règles, j'avais jamais sculpté de figurines, je peignais relativement mal. Et donc voilà, il n'y avait pas trop d'autres ambitions possibles pour moi que de vendre le produit des autres. Et
c'est un endroit idéal pour rencontrer des joueurs.
Voilà, ça a été très formateur. J'ai mis un an à monter tout ça. On a été récompensé par Raffarin, m'a remis un diplôme d'ailleurs à ce sujet-là. Tout le monde était d'accord pour que je monte ma boutique. J'ai été suivi et manque de bol, l'associé avec qui j'ai monté ça est parti au bout de deux ans et demi en me disant voilà, moi je pensais pas que ça allait être ça, je pensais pas qu'il y avait autant de boulot. Et du coup, il m'a laissé un petit peu tout seul. J'ai tenu pendant deux ans tout seul, mais c'est super dur en fait. C'est génial, tout le monde s'imagine qu'on joue toute l'après-midi et puis mais il y a la partie compta, le matin il faut laver la boutique, il faut le mardi et le jeudi j'organisais les soirées jusque minuit, le samedi et le dimanche je faisais les tournois. Donc en fait, je faisais du 6 jours sur 7, 10h minuit et après je gérais la partie comptable le reste du temps. Donc en fait, j'étais vraiment sur les rotules et j'avais perdu tout le plaisir parce qu'il était transformé en tâches administratives, en tâches comptables, etc. Et donc, j'avais reperdu le plaisir que j'avais de jouer et de faire vivre ma passion. Donc, j'ai raccroché les gants, j'ai liquidé la boutique et puis je suis reparti en informatique pour payer mes dettes. Ça a tenu trois ans, à nouveau 3 ans. Et puis, ma petite femme, qui me voyait partir à reculons au boulot tous les matins, s'est dit « Non, tu ne peux pas essayer de refaire un truc. Enfin, tu t'éclates, retrouve le sourire, quoi, ce sera mieux. » Et justement, est arrivé ce fameux barbecue arrosé de Trodrome et on a monté TGCM. Donc voilà comment on est arrivé de petit enfant qui peint des figurines à patron d'une boîte qui espère faire des émules et puis en tout cas faire des produits qui plaisent, quoi, des jeux auxquels on a envie de jouer surtout. Et donc, on a démarré en 2012, on a lancé Briscard en 2013, 8 mois plus tard. Et puis... Et puis 3 ans après, j'ai envie de parler du collègue qui se trouve juste à ma droite. 3 ans après, en fait, un ami commun nous a présenté. Et il se trouve que Jérémy, qui est là ce soir, a un talent monstrueux. Et il dessine, il modélise, il fait de la 3D, il est prof. Enfin, il va parler de vous.
Il va nous en parler, oui.
Moi, je ne pensais jamais qu'on pourrait s'offrir... ce talent-là, et en fait, il s'éclate apparemment avec l'univers qu'on lui propose, et du coup, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on développe ça, que grâce à lui, on a pu lancer le deuxième jeu, Carnage, parce que moi, je voulais que ce soit quelque chose de vraiment différent de Briscard, et donc là où on fait du chibi BD sur Briscard, je voulais quelque chose de beaucoup plus adulte, de beaucoup plus mature, à la fois en termes d'esthétique, mais aussi en termes de règles, et en termes de gameplay. Sur Carnage, le nouveau jeu qu'on a lancé l'année dernière. Et ça ne me semblait pas faisable de pouvoir affronter les deux en sculpture, en peinture, etc. Tout seul, ou en tout cas avec l'équipe qu'on avait à ce moment-là. Avec Jérémy, ça devenait possible parce qu'on s'ouvrait la porte de la modélisation et de la 3D. Et donc, on a pu faire un deuxième jeu grâce à toi.
Eh bien, avant de lui passer la parole, je vais simplement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ou qui voudraient découvrir, je vais simplement donner un ordre de site web. C'est, alors, Carnage, c'est écrit carn-age.com. Et vous, tout de suite, vous allez avoir des images de figurines magnifiques, colorées, etc. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a invité ces gens dans notre studio. Donc, Jérémy, à toi la parole. Ton parcours, je ne vais pas dire de gamer parce que tu étais... Je ne sais pas si tu étais gamer à la base.
Plus ou moins, ouais. Donc, mon parcours à moi, il vient donc à la base des arts graphiques. Donc, j'ai dessiné depuis que je suis tout petit et j'ai par chance pu faire mes études là-dedans avant de rentrer en milieu professionnel. Et en fait, j'avais aussi cette passion vers la fantasy, l'heroic fantasy, le jeu par extension, moins la figurine. J'étais plutôt rôliste et jeux de plateau.
Ça peut pas être parfait.
Et, voilà, et jeux vidéo. Et voilà, du coup, mon parcours m'a amené progressivement à essayer d'allier un peu tout ça. J'ai travaillé assez rapidement pour des magazines, des fanzines d'illustration en Belgique sur les mondes fantastiques où j'ai pu commencer à illustrer des textes, etc. Ça me plaisait beaucoup. Et après, voilà, donc mes études se sont achevées. Il fallait que je trouve une porte de sortie valable. Et c'est vrai que dans ces études-là, on ne dit pas trop ce qu'on pourra faire plus tard quand on apprend à dessiner, à peindre, etc. Et par chance, j'ai trouvé une annonce d'une boîte en Belgique qui cherchait une boîte de jeux vidéo qui cherchait des jeunes talents pour venir un peu nourrir leur rang. Et du coup, je les ai contactés, j'ai représenté mes dessins et ils m'ont fait le deal suivant qui était à l'époque possible encore. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais on aime ce que tu fais. Nous, on te propose de te former gratuitement à la 3D, etc. Moi, j'avais jamais touché un ordinateur. On te propose de te former gratuitement à la 3D pendant 3-6 mois, le temps que tu as besoin. Et si ça match, on t'embauche. Et finalement, j'ai suivi leur formation et ça a matché. Alors, c'était dur. La première fois que je suis arrivé au studio pour apprendre, on m'a dit qu'il y avait une racine sur un ordinateur. Je cherchais sous la table, mais je ne comprenais pas trop de quoi ils parlaient.
Tu travaillais déjà sur ordinateur en 2D?
Non,
déjà, même pas du tout.
Non, je travaillais en
traditionnel, comme on dit. Fait, voilà.
Et donc, voilà, cette boîte m'a permis de me mettre à niveau, comprendre comment ça fonctionnait, de me mettre à la 3D. Puis, j'étais fasciné à l'époque par les cinématiques des jeux qui commençaient à émerger sur la PS1, du coup, en 3D. Et je voyais tout ce qu'ils faisaient.
Ouais, ça va.
Du coup, tout ce qu'ils faisaient, ben, j'étais assez.
Il n'a pas dit Vectrex.
J'avais tout de suite. Blizzard au niveau cinématique, c'est déjà
pas mal. Ouais. Et du coup, j'ai pu intégrer rapidement une équipe, d'abord sur ce qu'on appelle le texturing, donc faire les textures des modèles 3D, etc. Donc, ce qui revient à peindre de la figurine quelque part. Et chemin faisant, j'ai fait après ma carrière, j'ai eu la chance d'aller dans des studios locaux comme Dravision, ou aller chez Ubisoft, qui m'a permis de travailler chez Arkham aussi. Après, je travaillais par extension en cinéma d'animation, aussi bien sur des films, des gros films à effets spéciaux que sur des films d'auteur.
Tu peux citer des noms, hein, on aime bien.
Alors, sur les films à effets spéciaux, j'étais plutôt sur des nanars aussi, hein, donc un peu comme
on aime bien.
Je pense que ma pire expérience a été.
On va pas voir ces films-là au Paris Shark Festival, non?
Non, je pense pas, ça date un petit peu. Mais c'était hyper intéressant de travailler dessus, parce que finalement, l'exigence technique, elle était malgré tout la même que sur un film de qualité. Et c'était ma plus grosse souffrance, c'était Blood the Last Vampire, qui était un manga que j'avais adoré et qui avait fait un animé de 45 minutes qui était juste très beau et bien animé. Et quand j'ai été travaillé sur le long métrage, je m'attendais à participer à quelque chose de grandiose, et c'était juste atroce, avec des monstres en latex qui avaient les doigts qui gigotaient sur chaque plan qu'il fallait. Voilà, donc c'était.
T'es sûr que t'as bien lu le contrat aussi?
Ben en fait, le problème, c'est que dans ce milieu-là, on nous dit ouais, tu vas venir sur ce projet, etc. Et en fait, on voit rien avant, et on découvre le jour où on arrive, et on signe des clauses de confidentialité qui nous retiennent un petit peu après. Mais en même temps, c'était hyper formateur, c'était intéressant de pouvoir faire cette expérience-là. Et voilà, chemin faisant, un jour, on m'a proposé donc de venir enseigner ici dans une école à Roubaix, à Pôle 3D. Et ça a été, c'était une expérience hyper intéressante. J'ai trouvé vachement stimulant de transmettre ce que je savais, de donner des conseils aussi sur le parcours, sur les métiers auxquels ça permettait vers lesquels ça permettait d'aller. Et puis Sion avait aussi aimé cet atelier-là, et donc la direction m'avait proposé à l'époque d'intégrer définitivement leur staff. Et finalement, j'avais envie de me poser. Ça faisait quelques années que je faisais les allers-retours Paris-Lille tous les jours, etc. Donc j'étais dans une. Voilà, je me suis dit, ça peut être intéressant, de même familialement, etc., de calmer un petit peu le jeu. Et j'avais vraiment aimé enseigner. Et du coup, l'enseignement, c'était quelque chose de très. Pour moi, de très épanouissant aussi, et ça permet de structurer mon savoir-faire, de le verbaliser. Finalement, on travaille d'instinct, on ne sait jamais trop comment expliquer comment ce qu'on fait, on va réussir à le faire ou comment on peut le faire, mais finalement, d'enseigner, ça nous oblige à ça. Mais j'avais besoin, malgré tout, et surtout aussi parce que les étudiants, en les accompagnant dans leurs projets, dans leurs créations, ça nous donne aussi envie, toujours plus envie de recréer. Et je pense que c'est peut-être là où après on peut basculer de bon enseignant à mauvais enseignant, même si je pense pas être le meilleur des enseignants, mais je pense que si on reste comme ça et qu'on se remet pas à créer soi-même, on risque de perdre un peu le fil là-dedans. Et donc moi j'avais toujours besoin de trouver des terrains de jeu entre guillemets satellites, et donc j'ai travaillé sur des films d'animation, des films d'auteur, donc notamment pour des films avec une société qui s'appelle Je Regarde. J'ai travaillé sur un film qui s'appelait Premier Automne, et c'était une super collaboration avec un ancien camarade de mes études d'art, donc c'était aussi des retrouvailles entre guillemets. Et donc, j'ai toujours pris des projets comme ça, satellites plus ou moins intéressants, plus ou moins arty ou pas. Et un jour, effectivement, notre ami commun m'a proposé de rencontrer Manu, et il m'a dit, il faut vraiment que vous voyez, parce que je pense que vous avez des choses en commun et sur lesquelles vous pourriez changer et vous pourriez vous apporter l'un et l'autre. Et donc, effectivement, on s'est échangé quelques mails. C'était parfois un petit peu long pour se répondre, parce qu'effectivement, je pense qu'il y avait cette ambiguïté sur peut-être ce que j'aurais pu demander ou réclamer, ou etc. Et puis finalement, ça s'est mis en place. Quand on s'est vu, ça s'est lancé tout de suite.
Les gens n'imaginent pas, en fait, le talent que tu as, mais dites-vous que la moitié des figues de Carnage, si vous êtes allé voir le site, là, la moitié des figues, c'est lui qui les a d'abord dessinées et ensuite modélisées. Et voilà, moi, je trouve que c'est un talent fou, quoi. Mm-hmm.
Bah, est-ce qu'il y a un site ou est-ce que tu as un site perso où on peut voir toutes tes créations? Alors, pas du tout.
Aucunement. Non, je pense parce que j'ai toujours été hyper actif dans mes travaux et finalement, les seuls moments où je prenais le temps de faire ce qu'on appelle un showreel pour envoyer ses boulots ou mettre son portfolio en ligne, je le faisais de manière directe sur un WeTransfer, un Drive, j'envoyais les éléments aux personnes qui étaient en...
T'as jamais eu le temps de te poser pour jamais dire, eu, voilà, jamais fait un Tumblr.
Mais je pense qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a plein d'outils, ça va de ArtStation à plein d'autres choses, je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de le faire.
Ouais. Ok, bah, super. Et donc ça, à quel moment t'as rejoint le projet? En quelle année on est là?
Donc je pense que c'était à 4 ans. 4,
ouais, 4, ça 5 faisait ans. 4 ans que TGCM existait, donc, quoi, à la moitié de sa vie.
C'est entre Briscard et la création de Carnage.
Ben, en fait, Briscard avait été relativement mature. Briscard, on a démarré juste avec des règles simples. Faut savoir que, pour retracer un petit peu, Briscard et Carnage, ils ont un trop commun, c'est des petits jeux de pure escarmouche. Quand je dis pure escarmouche, c'est-à-dire qu'on va pas... mener des grandes batailles avec des armées de 200 figurines chacun. On a vraiment 3 à 5 figurines par joueur. Donc on a très très peu de figurines à gérer, mais elles ont toutes énormément de potentiel, elles peuvent faire énormément d'actions, et c'est le joueur qui va choisir ce qu'il a à faire et comment il va gérer l'activation de chaque figurine. Ce qui est différent des jeux classiques où on a beaucoup et une séquence d'activation, beaucoup de figurines à gérer, donc on va les gérer par unité, et une séquence d'activation parce qu'on va d'abord se déplacer, ensuite tirer, ensuite charger, ensuite taper, et puis le joueur va faire la même chose en face, et ainsi de suite. Là, on va chacun jouer une figurine tour à tour et on va faire ce qu'on veut avec, parce qu'elle a un certain nombre de points d'action, et elle les dépense comme elle veut pour attaquer, défendre, gérer un objectif, etc.
Mais oui, bon, on peut témoigner parce que hier, pour la première fois, donc on a fait une partie découverte. Vraiment en traduction. Tout et moi, je suis des systèmes de jeux de figurines, on en a testé plein, etc. Et des fois, c'est vrai qu'on n'a pas envie forcément de se remettre dans un nouveau bouquin de règles. Et l'explication, ce que j'ai tout de suite apprécié, c'est qu'effectivement, on a quelques caractéristiques qu'on reconnaît très, très vite, quoi. Je savais que P, c'était puissance et que, oui, c'était pas poésie, quoi. Il n'y a pas de problème. Quand on joue sa figurine, on dit comment elle veut se déplacer. Est-ce que je veux taper et me déplacer, ou est-ce que je veux plutôt être en mode défensif, ou j'ai une. Voilà, on choisit comment. Et ensuite seulement, on se pose la question des règles et combien je vais jeter de dés et combien est-ce que je dois faire des calculs. Ça vient vraiment après, mais c'est très intuitif.
C'est ça, en fait, il y a un moteur de règles qui est le plus concis possible et le plus précis possible, mais c'est vraiment des outils pour qu'ensuite on soit libre de choisir la meilleure action au meilleur moment.
Ouais. Je pense qu'on pourrait difficilement faire plus, à part utiliser une appli, mais bon, là on est dans un autre domaine, quoi, c'est ça.
Ouais, peut-être que ça existera un jour en jeu vidéo, moi ça me dérangerait pas. Hein.
Et diriger ça, vous
voyez, éditeur, si vous nous entendez.
Une figurine intelligente, etc. On dira, toi, tu vas taper là, toi, tu vas. Et puis la figurine bougera toute seule. Par ce niveau-là, je vois pas. Peut-être que ça viendra un jour.
C'est ça, ouais. Et donc, ça, c'est un. Même s'il y a énormément de choses qui changent entre les deux jeux, c'est un tronc commun de Briscard et de Carnage. Et c'était une vraie volonté au départ, en fait. Parce que moi, j'avais envie d'un jeu qui me correspondait. Quand on a créé Briscard, l'idée c'était, voilà, on n'est plus tout jeune, on a une vie de famille, on n'a plus forcément la possibilité de passer des nuits complètes aligner sur la table de ping-pong parce que c'est la seule qui est assez grande dans la maison.
À chercher de la table numéro 4 pour trouver les dégâts de telle arme. Non,
et on ne peut plus passer la nuit avec ses potes.
C'est ça, il y a une figurine, chaque figurine a sa carte, sa petite carte qui résume son pouvoir, et puis c'est très intuitif, quoi.
Donc l'idée c'était d'avoir un tout petit terrain de jeu, on joue sur du 60 cm par 60 cm, donc ça c'est possible de jouer sur une table de bar, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc ça peut se ranger facilement, on n'est pas obligé de réquisitionner le salon pour faire une partie. On joue chacun 3-4 figurines, donc normalement on a le temps de les peindre, 4 figurines à peindre, même si on est lent, dans l'année c'est faisable. Dans la soirée aussi.
Hein. Ah, même si on a commencé simplement à les peindre, une sous-couche, etc., puis un ou deux détails, une arme, un petit peu de métal sur l'arme, etc., voilà, tout de suite dans un beau décor. En fait.
Et à ce sujet-là, on essaye de s'adresser vraiment à des joueurs autant qu'à des peintres, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous livrer une espèce de maquette ou un puzzle à monter avec 42 pièces par figurine. Si on peut la sortir en monobloc, c'est-à-dire en une seule pièce, on le fait. Si par contrainte de moulage, on est obligé d'enlever l'arme, on enlèvera juste l'arme et pas le casque, la cape, les deux bras, les deux pieds, etc. On n'a vraiment pas des puzzles, on a en moyenne une à deux pièces par figurine. Et donc le temps de préparation n'est pas si long que ça. Et puis le temps de jeu... Parce que c'est de la pure escarmouche et qu'on a chacun 4 figues. Une partie classique, pour Briscard ou pour Carnage, c'est une heure et quart. Donc, c'est vraiment, on est sur un format de jeu apéro et on peut quand même, quand on a 40 balais, voire plus, se retrouver une fois par mois avec les potes et se faire 2-3 parties dans la soirée. sans avoir complètement arrêté tout le reste. Quoi,
parce que hier, quand on a joué, effectivement, on était quatre, on n'a pas fait de scénario, on s'est dit, bah, c'est simple, hein, l'équipe qui élimine l'équipe en face a gagné, simplement. Mais il peut y avoir des scénarios plus subtils, etc. Bah,
je pas pense de que recherche pour un de jeu trésor. Parce que là, on l'a testé le jeu sur un salon, donc pour apprendre les règles, justement, d'affrontement, de déplacement, le scénario de tu vas en face et tu détruis tout ce qui bouge, c'est le meilleur moyen. Parce qu'au moins, tu ne réfléchis pas à un scénario. Mais
surtout quand tu joues avec des gens que tu connais, que tu as une certaine complicité d'affrontement, on va dire.
Voilà, donc tu sais qui frapper, même s'il est dans ton équipe.
Ce que j'ai c'est une autre histoire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'effectivement, on avait chacun notre personnage et on le jouait presque autour de la table. Effectivement, voilà. On se tapait pas dessus en vrai, mais on a passé plus de temps que d'habitude parce qu'on passait plus de temps à s'insulter, à se menacer presque, à se chercher autour de la table pour dire allez, viens me taper au lieu de taper.
Comme si c'était la figurine qui parlait.
Exactement.
Fait, ouais, on a une vraie volonté d'immersion dans Briscard et dans Carnage. C'est pas pour rien que, au bout de 7 ans, en fait, dans Briscard, il y a 52 actions différentes. Au-delà de se taper dessus, il y a les attaques et les bottes, par exemple, dans Briscard. C'est-à-dire qu'on a une épée, ben, on va avoir une attaque à l'épée, et puis on a une botte, ça va peut-être être une botte secrète. On se rappelle de celle de Nevers, mais il y en a plein d'autres. Ça, c'est les deux attaques classiques, en fait, pour un Briscard, pour une figurine. Derrière, on va pouvoir mettre des coups de boule, des coups de pied, des coups de poing. C'est décrit dans les règles. Mais après, il y a tout un tas de règles additionnelles, d'actions possibles qu'on va ajouter au fil des parties pour les rendre plus vivantes et surtout plus immersives. On va pouvoir se cacher, on va pouvoir viser ceux qui sont à couvert, on va pouvoir s'agenouiller, on va pouvoir faire tout un tas de choses.
On le rappelle, parce que les figurines, c'est représenté, bah, c'est des animaux, donc chaque race d'animaux a ses propres caractéristiques. Hier, voilà, on avait des félins contre des personnages, des mi-rhinocéros, mi-hommes. Effectivement, les rhinocéros, on se doute qu'ils n'ont pas... Ils ont une potentiel de charge, de courir vers l'ennemi, de lui foncer dedans sans réfléchir presque, et on sait qu'ils sont plus résistants. Les félins en face vont être un peu plus rapides, plus agiles, etc. Enfin, ça permet d'augmenter la richesse. Quoi.
C'est ce que je trouvais formidable en prenant le parti pris des anthropomorphes, c'est que tout le monde sera d'accord pour dire qu'un chaton c'est trop mignon, qu'un rhinocéros ça fait peur, qu'un lion il faut pas venir le taquiner. Enfin, on imagine tout de suite un état d'esprit et une intention quand on regarde un animal. Et du coup, c'est très facile à retranscrire et en sculpture et en concept. Je ne sais pas si en dessin, c'est aussi simple, mais je trouve que c'est assez facile de leur prêter une intention. Et du coup, ça va générer derrière tout un esprit pour la faction qu'on va choisir. La faction des lions, effectivement, dans Carnage, les carnes, on les voit nobles, on les voit fiers, ils sont droits, ils ont des postures vachement altières, etc. C'est le lion qui induit tout ça. Et donc forcément, on les imagine en chevalier arthurien avec des grosses armures, des épées. Ça s'y prête hyper bien. Quoi. Quand on met en face des gnous, Jérémy a quand même réussi le pari de rendre un gnou, qui est quand même, je crois, la bestiole.
Alors attention, en parlant de gnous.
Fais gaffe, parce qu'il y en a deux qui arrivent après.
L'émission d'après nous, c'est l'écho des gnous.
Ouais, mais quand tu les regardes, la vie populaire, on va dire, c'est-à-dire, enfin, la vie triviale, c'est que le gnou, c'est un pauvre herbivore au milieu de la savane. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Il est tout sauf belliqueux. Quoi. Et quand tu regardes dans nos vitrines un champion tribal... Ouais, il est badass, quoi. Tu sens qu'il faut pas l'approcher et le taquiner, quoi. Et bah, du coup, voilà.
Si on veut voir les détails des quatre factions qu'il présente, on peut parler du Kickstarter que vous avez fait en 2019, au mois d'août 2019.
On l'a livré au mois d'août, ouais.
C'est ça, de 2019. Donc, bah, je donnerai l'adresse, mais de toute façon, le lien, j'imagine, est sur le site Carnage aussi. Là, on a le détail des quatre factions. Il y a plein d'images. On voit les cartes des différents personnages, des figurines à moitié peintes et à moitié peinte, et ça c'est super intéressant de voir la différence. Et il y a toute l'histoire des héros, parce que derrière vous n'avez pas juste mis un nom et des figurines, vous avez détaillé un historique, une histoire et des noms et avec des personnages, etc.
Il y a même un roman.
Dans Briscard, en fait, on a démarré un peu sur les chapeaux de roue. C'était je vais pas dire que c'était notre galop d'essai, mais en fait on a démarré avec le peu d'expérience de joueurs. Et pour le coup de patron de boutique que j'avais, mais en tout cas, absolument pas d'éditeur. Surtout avec une équipe très restreinte, puisqu'on était quand même deux. Et on a fait ce qu'on a pu pour faire le meilleur de ce qu'on était capable, je pense, de faire à l'époque pour faire un jeu de figurines. Donc on a créé, c'est un jeu, comme tu le disais tout à l'heure, c'est des jeux à scénario, et donc il y a vraiment des objectifs dans chaque partie, etc. Et c'est pas du Capture the Flag, il s'agit pas juste d'aller en haut de la colline. Des fois, ça va être exploser le bateau de l'adversaire, piquer son chargement, récupérer la pierre précieuse dans les grottes. Enfin, sur Briscard, il y a 52 scénars, Mais ce qu'on se contentait de faire, c'est une fois les règles bien sèches et le moteur de jeu efficace, on se contentait d'écrire quelques lignes avant le scénario pour décrire l'ambiance et ce qui se passait. Et puis quand on a commencé à sortir en dur les bouquins de règles, on avait des 2-3 pages de fluff. Donc ça a permis de créer petit à petit, au fil des sorties, au fil des ans, un univers pour Briscard. On définissait vraiment les lignes d'Entropia, le monde dans lequel les Briscards s'affrontent, et on avait des anecdotes de pirates, les Quintors, les cochons qui allaient taper sur des singes, les Sundar, qui se faisaient eux-mêmes rapter et mis en esclavage par les Orénoques, les Crocos. Et donc voilà, on racontait nos petites histoires comme ça, mais il n'y avait rien de très très lié. On a essayé que le fluff soit suivi et qu'il n'y ait pas d'incohérence, mais il n'y avait rien de vraiment lié. Dans Carnage, en fait, comme on avait une plus grande ambition, en termes d'univers en tout cas, et de poids pour le jeu, je me suis dit dès le départ, il faut qu'on plante vraiment le décor, qu'il y ait un vrai background. Et donc effectivement, comme disait Jérémy, bah, je me suis essayé, pour la première fois, j'ai écrit un bouquin complet. Tu l'as ramené. Un petit roman en fait qui plante vraiment le décor, qui décrit les quatre factions où justement bah, ils vont être contents. Les petits gars qui nous succèdent, c'est un gnou qui est le héros de l'histoire. Et donc bah, on va découvrir les aventures d'Alaric, un jeune paysan goun qui va être embarqué dans une aventure, j'espère, assez épique. Et où justement les rhinos vont taper sur les hyènes vont essayer d'entourlouper les lions et les lions vont se venger sur les gnous jusqu'à ce que les éléphants arrivent. Enfin voilà.
Et donc, est-ce que dans toutes ces races animaux, il y a des requins ?
Alors dans Briscard, il y a beaucoup de requins. Il y a même une faction complète, on appelle ça les Ictiens, c'est une faction d'hommes-poissons. Il y a les Carcaros, c'est des gros méchants requins blancs. Il y a les Mocaros, c'est des requins-marteaux qui envoient des bourre-pifs à tout le monde. Ouais, il y a pas mal de requins.
Ben c'est parfait, on va vous passer une petite musique. Encore un extrait, cette fois c'est un extrait de la bande originale de Sharknado 3. C'est Dive Dave qui nous chante Shark Fight, numéro 4.
Dark outside, winds pulling in the tide, running through the streets, the people are scared, nobody's safe, they're everywhere. We will not surrender, we are left with only one option. We fight through the days and the nights.
Dave Dave, la chanson Shark Fight issue de la soundtrack de Sharknado 3. Et je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 en tout. Bon, je ne les compte plus, ce n'est pas grave. Pour revenir un petit peu sur des aspects plus pratiques, un point important, c'est que bah, vous êtes dans le Nord, vous êtes originaire ou pas du Nord, et vous produisez, que ce soit les figurines, c'est dans la cave chez vous,
c'est ça, ouais.
Et tout se fait dans le coin. Quoi.
Ben ouais. Déjà, il y avait une évidence au départ, c'est qu'avec le peu de trésor qu'on a engagé pour monter le projet, de toute façon, on ne pouvait pas externaliser la production, la gestion de certaines choses, parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre des prestataires extérieurs. Donc très vite, on s'est retrouvé avec une évidence. Il faut qu'on apprenne à mouler et à couler nous-mêmes nos figurines, une fois qu'elles seront sculptées. Il faut qu'on se débrouille pour la mise en page et l'infographie. Il faut, enfin voilà, on va gérer tout nous-mêmes, ça coûtera beaucoup moins cher. Et puis, du coup, on s'est formé à plein de choses, hein, à plein de corps de métier. On bidouillait Photoshop pour faire des faire-parts. Et puis maintenant, ma petite femme fait des choses merveilleuses. Il suffit de regarder sur le site. Ou les bouquins, ou les romans.
Oui, parce
qu'on
peut trouver sur le site de cette fois DGCM, donc c'est tgcmcreation.fr. Là, on a le détail des jeux et on a la boutique. On peut commander, si on n'a pas la chance d'aller sur un festival pour rencontrer, on peut commander les figurines. On peut trouver dans la partie téléchargement les règles du jeu.
Oui.
Avec des scénarios, etc. Donc
complètement. On n'est pas obligé d'acheter des figurines avant de savoir comment on joue.
Chez toi, on découpe des petits ronds, puis où on prend des Lego ou des Playmobil, comme disait tout à l'heure, pour faire les figurines.
Il y a surtout aussi sur le même site, il y a pour les fainéants comme moi, quand on joue aux figurines dans ma prime jeunesse, il y a une section décor qui nous permet d'éviter de créer des montagnes avec deux bouquins sur la table en disant c'est une montagne. Mais là, au moins.
Parce que vous faites des figurines, mais aussi des décors en 3D pour les parties de jeu.
Ouais, comme on a choisi une échelle un petit peu inhabituelle dans le monde de la figurine, alors pour revenir là-dessus, c'est juste qu'on voulait de la pure escarmouche. Donc comme je disais tout à l'heure, 3-4 figurines, on a essayé avec, on a démarré avec les figues qu'on avait sous la main, donc on a pris des petites figues de 28 mm et on en a mis sur 3, l'une en face de l'autre, sur une table de 60 par 60. On avait l'impression que la partie était finie, il n'y avait rien sur la table, c'était ridicule. Donc on a pris des grosses bestioles, ceux qui connaissent War Machine et Horde, dont des jeux de Privateer Press, une boîte américaine, proposent des Jacks et des Beasts, c'est des gros robots, enfin des gros mechas et des grosses bestioles dégénérées qui font à peu près...
façon un petit peu Pacific Rim, pour donner une vague idée.
Ouais, c'est ça, c'est l'idée, un peu Rampage ou Godzilla pour certaines, 60-70 mm, donc l'échelle qu'on a actuellement sur nos figues. On les a posées à trois, l'une en face de l'autre sur la table, et là, il y avait quelque chose, ça représentait quelque chose, enfin, on avait l'impression d'avoir du matos, quoi. Donc on s'est dit, on va prendre du 54, comme ça, on ne sera pas obligé de multiplier le nombre de figurines sur la table pour avoir l'impression de jouer. C'est pour ça qu'on a choisi cette échelle. Mais du coup, effectivement, souvent on nous oppose sur les salons. Ouais, j'ai pas de décor adapté à l'échelle que vous avez. Et on a les décors qu'il vous faut. On les a fabriqués petit à petit, justement, pour fabriquer nos tables, pour illustrer et prendre des photos dans nos bouquins,
etc. Petit détail pratique, non, je suis en train de parcourir la boutique. On peut acheter la figurine à l'unité, ou plusieurs, ou les décors, mais aussi de ce qu'on appelle des starters, donc une boîte qui permet de choisir, voilà, j'ai 3-4 figurines, voire plus, de telle faction parce qu'elle m'intéresse. On a de quoi jouer, on a une équipe.
On peut le faire vraiment au choix, ou alors démarrer avec les starters, qui sont vraiment un très bon moyen, parce que sur Carnage notamment, il y a un petit livret de règles complète en couleur dans les starters, donc on a vraiment tout avec la petite boîte de base. Pour jouer. Et pour revenir à l'éco local dont on parlait tout à l'heure, effectivement, en gros, Jérémy, on se rencontre une fois par mois, mais il habite à 10 km de chez moi. Et pour le reste, la sculpture, ça se fait dans mon salon. L'infographie, ma petite femme, est juste à côté de moi sur la table du salon. Et la production, elle se fait dans ma cave. Donc, tout se fait dans le 59. Et quand on fait appel à des prestataires, parce que c'est quand même pas nous qui imprimons les livres, ça se passe aussi à la frontière avec la Belgique, donc à Luin. Et pour l'impression des cartes, c'est un tout petit peu plus loin en Belgique. Mais dans un rayon de 120 km, on fait tout ce que produit TGCM.
On avait dit qu'on essaierait de faire un débriefing du Hammer Time, mais je savais qu'avec les bavards qu'on avait, on n'aurait pas le temps, mais c'est pas grave, parce qu'on se promet de faire ça la semaine prochaine, donner nos impressions, puis quelques belles rencontres qu'on a fait, des interviews, etc. Et je vais citer le Ronchin Model Club, c'est eux qui nous ont fait l'initiation à la partie. Ils ont des tables, ils jouent à Carnage, à Briscard, à Ronchin, donc on peut retrouver leurs informations sur ronchinmodelclub.wordpress.com. Ils font de la maquette, ils font du train, enfin c'est bon, des foot, c'est un club qui existe depuis très longtemps.
Et c'est des bons gars. C'est des bons
ils
gars,
ont des magnifiques tables adaptées à Carnage et Briscard.
Ce sont des passionnés, parce que normalement, c'était justement, on parle de les deux jeux dont on parle dans cette émission, c'était entre guillemets, du 1 contre 1 avec... Là, la démo était 2 figurines contre 2 figurines. Et on est arrivé à 4. Ils ont dit, pas de problème, on va s'adapter. Et on a fait une partie à 4. On gère chacun notre figurine.
Les figurines étaient magnifiques. Ouais. C'est un club, je pense qu'on en
parlera. Pas de souci pour aller jeter un coup d'œil sur cette association.
N'hésitez pas à aller voir.
Si vous voulez voir des figurines hors, sur Internet, c'est déjà pas mal. Mais en vrai, avec, dans les décors, etc., il faut aller les voir. Donc, c'est le Ronchin Model Club. Et pour terminer l'émission, une autre petite actualité, un festival qui va bientôt se dérouler à Lille, c'est le Cinéma Comédie, qui avait lieu, c'est la 6e année cette fois. Il commence le 30 septembre jusqu'au 4 octobre. Il y aura pas mal de projections comme l'année dernière. D'ailleurs, hier a commencé une exposition au Palais-Rioux, c'est le cinéma de Bourvil. Mais on va pas passer une bande originale d'un film de Bourvil. On pourrait, mais non, cette fois. Au Palais-Rioux à Lille, une expo assez passionnante. Donc c'est jusqu'au 4 octobre aussi. Donc elle a commencé hier le 12 septembre. Donc faut pas hésiter à y aller. Et parmi les projections que j'ai repérées qui m'intéressent, moi, le 1er octobre, je vais vous faire une citation d'un film. Vous allez dire si vous le reconnaissez, je la retrouve. Il y a 160 km d'ici à Chicago. Nous avons un réservoir plein d'essence, un demi-paquet de cigarettes. Il fait noir et nous portons des lunettes noires. De quel film est-ce que c'est extrait? Reynald, tu triches pas, tu as la réponse?
Non, j'ai même pas vu. Ah oui, maintenant je l'ai vu, mais je pensais à celui-là justement. Ouais. Exact.
Les Blues Brothers, ouais, projetés dans l'esplanade du Palais Saint-Sauveur, de Saint-Sauveur, de la gare Saint-Sauveur, gratuit. C'est le jeudi 1er octobre vers 20h30. Mais il y a plein d'autres films qui sont projetés dans des différentes salles de Lille. Y a-t-il un film pour sauver la reine? Ils rediffusent même je crois que la trilogie de la 7e compagnie. Il y a moyen de se faire plaisir quand même. La folle journée de Ferris Bueller, enfin c'est sur le... faut que je retrouve l'adresse du site, de toute façon c'est Ciné-Comédie, on le rappellera de toute façon. Donc tout le programme de toutes les salles pour la Ciné-Comédie de 2020. On va terminer, du coup j'ai choisi un petit extrait de la bande-annonce, la bande originale, pardon, des Blues Brothers. On remercie nos invités, Manu, Jérémy.
Merci à vous de nous recevoir.
Merci à vous d'être venus.
Merci.
Et c'est parti Marcel, on peut lancer le générique de fin et le morceau.
Time. She don't believe I love.
Radio Campus Lille,